Bonjour à tous. C'est un privilège d'être là et de parler, d'avoir à parler, mais c'est un privilège redoutable d'avoir à parler au nom du Seigneur. Et je vous demande de prier pour moi pendant ces moments. J'avais à cœur de parler de la Pentecôte, parce que nous venons de vivre ensemble la Pentecôte, Pentecôte fête de la paix, oui, fête de la paix, mais fête aussi de la communication, et puis, troisièmement, fête du feu, et c'est à ce sujet-là que je voudrais parler ce matin, le feu. Vous avez remarqué que Pierre nous a lu un passage qui parle déjà du feu, et je voudrais prendre trois exemples de l'Ancien Testament, et ensuite voir dans le Nouveau Testament ce que la Bible dit au sujet du feu. Le premier donc, c'est ce qui vient d'être lu, Moïse qui fait paître le troupeau de son beau-père dans le désert. C'est à l'arrière, l'expression hébreu, c'est à l'arrière du désert, donc dans les fins fonds. Et puis là, il voit quelque chose qui est tout à fait banal, complètement banal. Ben, un buisson en feu. Tous les buissons peuvent prendre feu, surtout dans des conditions désertiques. Mais ici, ce qui a attiré l'attention de Moïse, ce n'était pas que le buisson était en feu. Nous, on aurait regardé ça, hein, bien sûr, puisque nous habitons la France, mais... Une heure plus tard, peut-être, le buisson était toujours en feu. Deux heures plus tard, mais j'en sais rien. En tous les cas, le feu était là. Et ce buisson ne se consumait pas. Alors voilà ce qui a attiré l'attention de Moïse. Parce que Moïse était un homme de feu. Nous savons que la vie de Moïse se divise en trois période de 40 ans, donc il a vécu 120 ans. La première période, c'était 40 ans à la cour de Pharaon, où il apprenait toute la sagesse, et il y en avait à apprendre. Des Égyptiens, je ne crois pas qu'il a appris comment construire des pyramides, je ne pense pas. Mais il y avait beaucoup d'autres choses à apprendre. Les Égyptiens, ils savaient des choses. Et Moïse, jeune homme, intelligent, motivé, c'était un homme de feu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Moïse savait d'où il venait. Il savait qu'on a dû lui dire que, oh, tu sais, on t'a trouvé parmi les roseaux, dans un Moïse. Oui, il savait. Il savait qui était sa maman, il savait qui était son papa, il savait qu'il n'était pas égyptien. Et quand il a vu, bon, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire, quand il a vu quelqu'un qui maltraitait, le feu. Et donc, il a dû s'éloigner de la cour de Pharaon. 40 ans dans le désert. Et ici, nous le prouvons vers la fin de sa deuxième quarantaine. Alors, quel âge avait-il? Ben, il avait 80 ans, ou à peu près. Je regarde parmi nous qui sommes ici. Moi, je n'ai pas encore 80 ans, mais ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas beaucoup. Mais ici, Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, pendant 40 ans, il avait gardé faisait paître le troupeau. Et là, il fallait qu'il aille doucement, il fallait qu'il suive les traces, etc., etc., etc. Et il a pris une sagesse que la cour de Pharaon ne pouvait pas lui apprendre. Mais il a appris que peut-être le feu de la jeunesse pouvait disparaître. Et puis là, il voit un buisson. Il voit un buisson qui ne se consume pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça attire son attention. Et quand Dieu commence à lui parler, il devait quand même avoir peur. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Nous avons à entendre le même message et à obéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, Dieu dit, ben non, attention, c'est pas fini, 80 ans, c'est pas fini, non, j'ai besoin de toi maintenant. Alors, écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin, parce qu'il nous dirait la même chose, j'en suis sûr. Hein. Oh, c'est pas fini, non. 80 ans, et puis Dieu lui accorde un sursis de vie, encore 40 ans. Ça, c'est formidable. Moïse est un exemple de quelqu'un qui a obéi. Il a dit, oh non, Seigneur, c'est pas moi, je suis bègue, je peux pas parler. Mais il y a ton frère Aaron. Aaron avait quel âge? Mais il avait 83 ou 84 ou bien quelque chose comme ça. Hein. Aaron, c'était la même chose. Ah oui, lui, il parlera à ta place. Alors, prends ton bâton et puis vas-y. Et puis, il a pris son bâton, il y est allé, on sait. Moïse était l'homme le plus respecté dans le judaïsme aujourd'hui. Combien? Presque 3000 ans plus tard. Oui, parce que Dieu dit, voilà, j'ai besoin de toi. Deuxième exemple, un exemple connu. Éliahou. Élie, nous l'appelons Élie. C'était un homme de feu, Élie. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Et ils avaient rassemblé 400 prophètes de Baal. Et ces 400 prophètes de Baal, ils ont construit leur autel. Et puis, ils ont commencé à invoquer Baal, le Seigneur Baal, le faux Seigneur, bien sûr. Oh, et puis ils se sont mis à se faire des incisions pour montrer à quel point ils voulaient absolument que le feu descende du ciel. Et ça n'a rien servi. Et puis Élie construit son autel. Et puis il prend de l'eau, il fait des rigoles autour de l'autel, enfin des tranchées. Et puis il prend de l'eau et puis il verse sur l'autel et puis ça coule jusque dans les rigoles. Si vous voulez, en 1 Roi chapitre 18, vous pouvez lire l'histoire. Et puis il dit, Seigneur, écoute. Et puis le feu tombe du ciel. Élie est un homme de feu, il sait manier le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jézabel lui dit, bon, je l'aurai. Excusez-moi, je pense à un programme, enfin une pub à la télé en disant, je l'aurai. Non, mais Élie dit, oh, yo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fuite. Parce que Élie a perdu le feu. Vous savez que c'est quelque chose. Nous, des fois, nous avons du feu. Nous avons du feu motivé pour quelque chose. Très motivé. Et puis, quelques temps plus tard, ah, où est-ce que c'est parti? Mais c'est parti. Il a perdu le feu. Alors, il est obligé de partir chercher le feu. Où est-ce qu'il va chercher le feu? Bien, il va chercher le feu au Mont Sinaï. Évidemment, parce que c'est là où Dieu s'est manifesté pour la première fois au peuple d'Israël. Il est descendu sur la montagne, et la montagne était remplie de feu, et Moïse dit, oui, je suis tout épouvanté. Alors il va chercher le feu, au Sinaï. Et puis je vais lire donc en Rois chapitre 19 ce qui s'est passé au verset 9. Et là, il entre dans la caverne. Élie entre dans la caverne. Et il y passe la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle, mon feu, si vous voulez. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Adonai, Sevaot. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et il cherche à ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors de la caverne et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et puis, nous savons ce qui se passe, mais je vais quand même le lire parce que ça aide d'apprécier ce que le Seigneur est en train de dire. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. Moi, je crois que je serais dans un drôle d'état en voyant quelque chose comme ça. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, un séisme. L'Éternel n'était pas dans le séisme. Et après le séisme, après les tremblements de terre, un feu. Ah, voilà ce qu'il veut, le feu. Mais maintenant, l'Éternel n'était pas dans le feu. Tout feu ne vient pas de l'Éternel, évidemment. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Élie était sûrement un homme comme moi. En tous les cas, Jacques le dit, il était l'homme de la même nature que nous, il prie, il demande au Seigneur, et le Seigneur arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Et 3 ans et demi plus tard, Élie prie de nouveau, et ça c'est formidable. Mais Élie aussi était un homme de la même nature que nous, que moi en tous les cas. Et que fais-tu ici, Élie? Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Je suis resté moi seul, cherche à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert. Va, reprends ton chemin. Oh, mais moi, non. Oh, moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'en est assez. Je ne peux pas faire ça. Mais il y obéit quand même, malgré ses craintes. Et Dieu lui donne la force. Je crois que c'est une illustration de ce petit mot que j'ai devant mon bureau. J'ai marqué découragement. Le découragement égale l'égotisme désenchanté. L'égotisme désenchanté. Vous savez ce que c'est que l'égotisme? C'est quand on pense à soi, l'estime de soi. Puis c'est facile d'être désenchanté. C'est à ce moment-là qu'on est découragé. Parce qu'on a pensé Et il dit, oh, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais qui est-ce qui lui a demandé d'être meilleur que ses pères? Qui est-ce qui lui a demandé d'être quelqu'un? Dieu ne nous demande-t-il d'être quelqu'un? Je ne sais pas si Dieu vous a demandé d'être quelqu'un, mais moi, il ne m'a pas demandé. Et quand on se décourage, eh bien, c'est parce qu'on a cru être quelqu'un et puis on se rend compte que ce n'est pas vrai. Troisième exemple, nous connaissons, et je ne vais pas le dire, dans le livre de Daniel, des hommes qui font l'expérience du feu. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils désobéissent au gouvernement, et le gouvernement a dit, attention, si vous ne faites pas ce que nous disons, vous irez dans la fournaise ardente. Et puis, bon, il y a ces trois compagnons de Daniel qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Hein, on en parle, on chante même des chansons à leur sujet, qui désobéissent. Alors qu'est-ce qui va leur arriver? Bien, le roi Nebuchadnezzar, il est tellement en colère qu'il dit, mais on va chauffer. Plus, il joue avec le feu, Nebuchadnezzar. Il ne perd pas lui-même, se perd pas lui-même, mais il perd ses serviteurs. Si vous vouliez le dire. Oui. Et puis, Shadrach, Meshach et Abednego, Ananias, Misaël et Azariah, si vous voulez les noms juifs, alors, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui se passe? On sait bien, bien sûr, ce qui se passe. Au lieu d'être jetés, liés dans la fournaise ardente, Nebuchadnezzar, il dit, mais maintenant, je vois. J'ai jeté trois hommes liés dans la fournaise, maintenant il y en a quatre. Et ils sont en train de marcher ensemble, ils étaient peut-être en train de chanter, je ne sais pas. En tous les cas, ils étaient en train de marcher ensemble déliés. Mais il y a une raison à cela. Bon, on sait que la quatrième personne, c'était Dieu lui-même qui les a accompagnés dans la fournaise ardente. Mais il n'y avait pas que ça. Ça montre que le feu ne brûle que ce qui n'est pas feu, ce qui n'est pas de même nature. Le feu brûle en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu permet cela pour que nous puissions être purifiés. Et ces trois, quand Nebuchadnezzar dit, bon, il faut ouvrir la porte et le laisser sortir, bien sûr. Il n'y a que trois qui sont sortis. Le quatrième, il n'en est pas question de sortir. Mais voyez que le feu de Dieu est quelque chose de redoutable et en même temps quelque chose que nous devons accueillir, que nous devons même peut-être demander. Venons-en à Actes chapitre 2. Très rapidement, vous connaissez, mais c'est bien de lire. J'aime tellement la parole de Dieu. Il vaut mieux l'entendre dans ses paroles à lui que dans les miennes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 personnes, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent. Comme Élie, mais le vent. Un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, est-ce qu'ils étaient brûlés? Je vous laisse la réponse. Est-ce qu'ils étaient brûlés? Non, mais cette langue se posait sur chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors non, ils n'étaient pas brûlés, mais ça sortait de la bouche. Ça sortait de la bouche. Jérémie dit d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas mentionnées ce matin. Jérémie dit, peut-être ta parole était en moi comme un feu. Je ne pouvais pas me retenir. Si nous pouvions tous être loin de cette façon, le peuple ne peut pas se retenir. Se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Et puis ça c'était formidable. C'était merveilleux. Mais ça devait leur coûter quand même quelque chose. Et puis pour terminer, deux versets dans le premier épître de Pierre. Des exhortations que le Seigneur nous adresse, je pense, à nous tous ici ce matin. Premier épître de Pierre au chapitre 4, versets 12 et 13. Mais, bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ne le trouvez pas étrange, dit Pierre. Moi, je préfère ne pas y être. Moi, je... Carrément, évidemment. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je ne suis pas dans la fournaise de l'épreuve. Mais nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Je n'en doute pas, ni pour moi, ni pour vous. Nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Et ça risque bien, chers amis, ça risque bien d'aller encore bien pire qu'aujourd'hui, 2007. Préparons-nous. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Bon, on peut peut-être l'éviter pendant un certain temps, mais on ne peut pas l'éviter toujours, c'est pas possible. On peut faire prendre les mesures pour... On a tous essayé, n'est-ce pas? Quelque chose d'extraordinaire. Et puis il dit ceci, réjouissez-vous, oh Seigneur, merci pour les... Est-ce que j'ose le dire? C'est difficile de le dire. Bon, moi personnellement, je me trouve bien moins éprouvé que d'autres personnes que je connais. Mais Pierre dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça, c'est difficile à avaler. Et puis, dernier verset, dans le premier chapitre de la même épître, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, dit Pierre, à ceux qui sont prêts à l'écouter, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Ne nous trompons pas, l'or passe par le feu, et sinon, ça ne vaut rien, hein, c'est pas du 18 carats ni rien. Éprouvée par le feu, que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Et donc, il faut que cette foi soit éprouvée, épurée. Voilà ce que le Seigneur nous dit.